faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Sois élevé, Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons entendre ta parole, nous voulons écouter ce qui vient de toi. Parle-nous, enseigne-nous, conduis-nous pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Jésus est bon. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui notre enseignement sur l'amour. Amen. Dis avec moi l'amour. L'amour. Il y a un certain nombre de vertus et de valeurs que nous devons absolument conserver, garder et même développer pour le temps de la fin. Je veux vous inviter rapidement à lire un passage que nous avons déjà lu pour nous retremper dans le bain de ce message et puis aller dans le vif du sujet. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 12 et 13, Jésus dit ceci: « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Dieu dit que vers la fin des temps, lorsque nous allons approcher de la fin des temps, le péché va s'accroître. Quand on dit le péché va s'accroître, ça signifie qu'il y aura beaucoup plus de méchanceté. Il y aura beaucoup plus de trahison. Il y aura beaucoup plus d'escroquerie. Il y aura beaucoup plus de coups bas. Il y aura beaucoup plus de comportements négatifs. Dieu dit que les comportements négatifs vont tellement se développer que l'amour dans le cœur des hommes, et particulièrement des croyants, des chrétiens, va se refroidir. Qu'est-ce que ça signifie? Pour comprendre ce que ça signifie, nous pouvons lire par exemple 1 Corinthiens 13 qui dit que l'amour pardonne tout. Donc Jésus explique que vers la fin des temps, tellement il y aura des méchancetés, les hommes auront du mal à pardonner. Ils vont pardonner plus difficilement. C'est-à-dire qu'on dit l'amour va se refroidir. Lorsqu'on dit que l'amour va se refroidir, ça veut dire qu'on va pardonner de moins en moins. Pourquoi les hommes vont-ils devenir indifférents? Vont-ils pardonner de moins en moins? Tout simplement parce qu'ils vont commencer à subir trop de trahison, trop de méchanceté, trop d'hypocrisie. Donc tellement le mal va s'accroître, si une personne arrive à pardonner un peu, elle va dire c'est trop compliqué, je n'y arrive plus. Maintenant, je vais rendre le coup pour coup. Ou bien, je ne parle plus avec certaines personnes. Je ne marche plus avec un tel. Je ne ris plus avec un tel. Cette personne n'est plus ma copine, etc., etc. Et voilà ce que la Bible explique. La Bible dit donc que le mal va s'accroître, l'amour va disparaître. Mais Dieu ne justifie pas, il n'est pas d'accord avec la disparition de l'amour pour autant. Il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est-à-dire, quel que soit le mal que tu as subi, si tu ne gardes pas l'amour, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas moi qui ai écrit le verset, c'est Jésus lui-même qui l'a donné. La Bible dit, n'ajoutez rien à la parole, ne retranchez rien. Ce qui est écrit, est écrit. Ce qui est dit, est dit. Dieu sait que tu as raison. Si on veut juger l'histoire, tu as certainement raison de ne plus parler à Gasparette. Après ce qu'elle t'a fait, tu l'as amené voir l'homme que tu voulais épouser, elle est passée derrière toi. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Gasparette, jamais tu vas lui pardonner. Ton amour a refroidi. Pourquoi? À cause de la méchanceté de Gasparette. Ton meilleur ami, vous êtes lancé dans des affaires ensemble. Passer derrière toi, t'escroquer, prendre l'argent, récupérer le marché et t'éjecter. Voici le développement de l'iniquité. Peux-tu encore pardonner à un tel, marcher avec un tel?
Si tu dis non, je ne le supporte plus, sûrement que la terre va te donner raison, mais pas la Bible. Dieu dit, le péché va s'accroître. Il t'informe qu'il y aura de plus en plus d'escrocs. Il y aura de plus en plus de faux types. Mais, celui qui va persévérer jusqu'à la fin en gardant l'amour, c'est celui-là qui sera sauvé. Il explique que l'amour va disparaître pour une raison. La raison qui va entraîner la disparition de l'amour, c'est le comportement des uns et des autres. Mais Dieu n'excuse pas cela pour autant. Il ne dit pas, comme vous avez raison, hein, je vais faire un compromis. Je dis, bon, toi, tu dis, toi, quel est ton cas? Pourquoi tu ne parles plus avec Gasparette? Seigneur, il faut que je t'explique. Tu sais, Gasparette, nous sommes deux sœurs. Je lui disais tout. Si je ne veux plus lui parler là, je sais pourquoi, Jésus, je vais t'expliquer. Hey, le verset que tu as écrit là, il faut savoir qu'il y a des cas différents. Moi, mon cas, c'est Gasparette. Et voilà notre histoire. Nous sommes vraiment, on partageait tout. Quand elle était malade, je l'ai soutenue. Je l'ai aidée. C'est ma soeur. Je lui ai donné tout, pasteur. Et maintenant, je l'ai logée. C'est mon mari qu'elle est venue prendre. Dieu, Jésus. Comment tu veux que demain je marche avec une, je souris avec une femme pareille? Je ne peux pas. Donc, ce que tu dis, celui qui va conserver l'amour sera sauvé là. Ça peut être vrai pour d'autres personnes, mais pour moi, il faut comprendre. Puis Jésus va réfléchir comme ça pour dire, ah ok, j'ai compris. C'est vrai quand même, Gasparette t'a trahi. Donc, ce verset là ne sera pas vrai pour toi. Toi, de manière exceptionnelle, tu n'as pas gardé l'amour, mais quand même tu es sauvé. Est-ce que ça va arriver comme ça? Non! Non! Quelle que soit la raison, Jésus l'a déjà expliqué, il l'a déjà donné. Il dit le mal va s'accroître et il englobe à l'intérieur toute mauvaise attitude. Et il dit ça n'excuse pas que toi tu n'arrives plus à pardonner. Alléluia! Mais celui qui va arriver à garder l'amour, à regarder Gasparette qui a pris son mari, il dit, Seigneur, pardonne-la, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Celle qui arrivera à garder son amour comme ça, celle-là sera sauvée. Plusieurs me diront, parce que là, c'est impossible. Moi-même, je suis d'accord avec toi. Mais je ne te demande pas de faire l'impossible. Je te demande tout simplement, Jésus te demande tout simplement de laisser Jésus en toi réaliser cela. C'est possible par Jésus. Joseph n'était pas quelqu'un, ce n'était pas un surhomme. C'était un homme comme toi et comme moi, qui a grandi avec ses aînés, ses frères, qui a marché avec eux. Ses frères lui ont donné des conseils, ses frères l'ont éduqué. Et ses propres frères se sont associés, comme une association de malfaiteurs, pour décider de le tuer, lui, leur jeune frère. Mais Joseph, des années plus tard, lorsqu'il est monté dans la gloire, il leur a montré qu'il n'avait rien gardé dans son cœur contre eux. Si Joseph a pu le faire, c'est que toi, tu peux le faire. Il y a un secret. Il y a quelque chose qui amène un homme à pouvoir pardonner les offenses des autres, quelles qu'elles soient. C'est possible. Dieu ne peut pas exiger une chose s'il est conscient que personne ne peut la faire. Si Dieu dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, ça veut dire que toi tu peux persévérer jusqu'à la fin. Ça veut dire que les Gasparettes, les traîtresses, les escrocs ne vont pas t'atteindre. On n'atteindra pas ton cœur. On ne va pas t'amener à haïr. Quelle que soit la méchanceté des uns et des autres, toi, tu vas continuer à aimer. C'est possible. Il faut le croire. Jésus a fait la bise à Judas qui venait de le vendre. Il dit, mon ami, les jours viennent où tu feras le bisou à Gasparette, ma soeur. Tu m'appelles ta soeur avec tout ce que je t'ai fait. Non, tu dis à Dieu, j'ai dit à Dieu qu'il te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. L'amour dont parle le Seigneur est une chose qui est répandue dans votre cœur par le Saint-Esprit. Dès l'instant où vous êtes né de nouveau, Dieu dépose les graines de cette attitude, de ce comportement. Dieu dépose en vous la capacité de pardonner toute offense. Dieu dépose en vous la capacité d'être patient, car la Bible dit l'amour est patient. Dieu dépose en vous la bonté, parce que la Bible déclare que l'amour est bon. Dieu dit que l'amour supporte tout. Tu es capable en toi de pardonner, de croire tout, de supporter tout, d'avoir l'attitude et le comportement de Jésus. Tu peux y arriver. Touche un voisin de lui, tu peux et tu vas y arriver. Parce que de toute façon, si on est ensemble ici, c'est pour aller quelque part. Alléluia. 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 Et nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'amour est déjà dans notre cœur, si bien sûr nous sommes nés de nouveau, car si tu n'es pas converti, si tu n'es pas chrétien, la chose n'est pas valable, c'est pas applicable. La graine de l'amour n'est pas dans ton cœur. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Mais l'amour qu'il va déposer en forme de graine est encore petit. Il faut maintenant favoriser, mettre les engrais pour que l'amour pousse. Tu n'auras même pas à faire d'effort. À un moment donné, tu vas te rendre compte, toi-même, dans ton cœur, tu cherches la colère contre Gasparet, tu ne la trouves pas. C'est-à-dire, vous arrivez, vous vous retrouvez à une réunion, tu te dis que tu te serais mis en colère et tu te rends compte qu'il n'y a aucune colère qui émane de toi. Tu cherches, tu dis, ah, ça là, avant, il y a longtemps, je l'avais giflé. Tu regardes, ta main n'a même pas envie d'aller la taper. Tu vas te sentir totalement différent. Des personnes qu'avant, vraiment, quand tu les avais vues, c'est un coup de poing que tu leur lançais, tu arrives, tu les regardes et tu as envie de sourire avec eux. Tu dis, mais d'où ça vient? Tu cherches ton vieil homme, tu ne le trouves plus. Tu cherches ton vieux comportement, tu ne le vois plus. Tu dis, où est-il parti? Où est-il passé? C'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est juste qu'il faut mettre les ingrédients autour. Ce sont les engrais qu'on dépose et puis la graine que Jésus-Christ a semée, lorsque tu es né de nouveau, va produire. Amen. Et ton comportement, tes réactions, ton attitude vont changer. Amen. Amen. Alors nous avons cité 8 attitudes, 8 choses à faire pour permettre à l'amour que Jésus-Christ a déposé en vous de se manifester, de se développer. Quand cet amour-là va se manifester, se développer, vous serez heureux. Vous allez connaître le bonheur. Car quand vous aimez, vous ne souffrez plus. Les hommes ne peuvent plus rien vous faire. On vous trompe. C'est-à-dire, vous êtes serein. Quand vous avez l'amour, vous avez la santé. L'amour dans le cœur donne une bonne santé. Les rancunes, la colère, la haine, le mépris, l'amertume rend malade. L'amour, le pardon, vous amène à avoir une vie épanouie. Vous êtes épanoui. Si vous recherchez le bonheur, manifestez l'amour. Le bonheur, c'est l'amour. Le bonheur, c'est la capacité d'aimer tout le monde. Le bonheur, c'est de pouvoir marcher dans la rue, de pouvoir rencontrer celui qui t'a trahi sans que cela change ton humeur. L'esclavage, c'est d'être lié à celui qui t'a fait le mal. C'est-à-dire, le matin, tu te réveilles dans la joie. Alléluia, Jésus est bon. Et puis au carrefour, Gasparet sort. En même temps, ton visage se transforme. Tu es esclave de Gasparet. Tu décides d'être dans la joie. La rencontre seulement avec Gasparet change ton humeur. Donc, qui commande qui? C'est Gasparet qui te gère. Gasparet décide ta joie ou ta tristesse. Tu décides de danser. Dès que tu vois son visage à l'église, tu ne danses plus. Dieu dit, ce n'est pas normal. La haine te rend esclave. Le mépris te rend esclave. Tu es de bonne humeur, tu vois que quelqu'un puis subitement tu te mets en colère. Dieu dit, sois libre. Sois libre. Lui, il t'a fini d'être escroqué, il n'a pas de problème. Toi qui souffres. Non seulement il t'a escroqué, mais en plus il te fait souffrir par sa présence. Il ne faut pas lui donner trop de pouvoir quand même. Il a déjà pris ton argent, c'est bon comme ça. Maintenant, il va prendre ta joie aussi. Ah, quand même, c'est trop. Il veut prendre ta paix. Quand même, il t'a escroqué, c'est bon. Il va régler ça avec Dieu. Toi, ton avenir est entre les mains du Seigneur. Dieu va régler son problème. Mais quand même, il ne va pas encore prendre ta propre joie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alors, pour que cet amour se développe dans votre vie, nous avons cité auparavant déjà 3 attitudes. La première, c'est qu'il faut rechercher, il faut vouloir l'amour, il faut la rechercher. Il faut vouloir que cela se manifeste. Amen. Si vous ne désirez pas, cela ne se fera pas. Dieu te demande de pardonner. Tu dois être honnête pour dire à Dieu, Seigneur, c'est difficile, mais je reconnais que ta parole me demande de pardonner. Si tu dis, la fille là, je sais que la Bible dit de pardonner, mais elle là seulement là. Seigneur, moi je te dis en même temps, je ne pardonne pas. Je ne veux même pas pardonner même. Si tu penses comme ça, mais évidemment tu tues la graine en toi. Elle ne peut pas se manifester. Ce qui est plus honnête de dire, c'est de dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Ce qu'elle m'a fait tellement mal que je n'y arrive pas. Seigneur, ce qu'il m'a fait est tellement gros que je n'y arrive pas. Mais je reconnais que ta parole me dit que je n'ai pas la bonne attitude. Seigneur, toi-même, change-moi. Toi-même, transforme-moi. C'est honnête. Quand tu pries comme ça, Dieu va te délivrer, Dieu va t'aider. Mais si déjà tu refuses, j'ai entendu même un homme de Dieu dire. Bon, ce n'est pas un homme de Dieu, pas ici, il parle quoi, c'est pas bien. Il dit à quelqu'un, si toi tu vas au paradis, moi je préfère aller en enfer. Hein? Ça veut dire tellement ce que ce monsieur-là lui a fait mauvais. Non, il a dit ça autrement, il dit, si tu étais la porte du ciel, Moi, je préférais aller ailleurs. Ah, à cause d'un homme. Qu'est-ce qu'il t'a fait de si grave? Qu'est-ce qu'il a fait qu'on n'a pas fait au Christ? Qu'est-ce qu'il a fait qu'on n'a pas fait à d'autres hommes de Dieu dans la parole? Hein, Étienne, qui était là, vous êtes en train de le lapider. Quelqu'un qui ne vole pas, qui vous parle de Dieu. Vous le tuez pourquoi? Et puis, il est tout souriant avec ses bourreaux. Seigneur, pardonne-leur. Prends mon âme. Qu'est-ce qu'on t'a fait? La vie qui est en toi n'était pas plus précieuse que tout. Tu n'es pas mort. Amen, amen. Amen. Donc, il faut de la volonté. Il faut l'accepter. Même si on n'y arrive pas, il faut le reconnaître. Deuxième chose, et puis bien sûr, il faut se convertir. Ça, c'est la première des choses. C'est le préalable même. Et deuxièmement, on a dit ceci. Il faut toujours être conscient de la grandeur de l'amour de Dieu à votre endroit. Dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 47, il est dit. Là, je donne ce verset-là en complément parce que la dernière fois, je ne l'avais pas cité. Il est dit, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Point. Et il est dit de la suite, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, du verset 21 au verset 32, même un peu plus loin, jusqu'au verset 35, Jésus raconte l'histoire d'un chef, d'un roi, qui avait un débiteur, quelqu'un lui devait de l'argent. Il appelle, il dit, toi, rends-moi l'argent que tu me dois. Le monsieur dit, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas suffisamment d'argent. Il dit, si tu ne me rends pas l'argent, je mets ton épouse, ta femme en prison, tes enfants, je les fais vendre comme esclaves et je retire mon argent. Le monsieur s'est mis à genoux, il a demandé pardon, pardon. Et le roi lui a pardonné. Ce même monsieur-là sort, il rencontre un autre monsieur qui lui doit beaucoup moins d'argent. Il dit, toi là, donne-moi de mon argent. Le monsieur dit, pardon, je n'ai pas d'argent. Il dit, non, rien à faire. Il a fait vendre, livrer sa famille pour se faire rembourser. Et les amis qui avaient suivi l'histoire sont partis voir le roi pour lui dire, le gars à qui tu as pardonné là, tu as remis la dette là, il a fait jeter quelqu'un en prison pour se faire rembourser. Le roi était offusqué, il a rappelé, il l'a fait jeter. Et cette phrase-là est sortie lorsque Pierre lui avait demandé, maître, combien de fois doit-on pardonner les offenses des autres? Et c'est là que Jésus a dit, 7 fois, ce sont 17 fois. Un jour, je vais expliquer, peut-être même dimanche prochain, pourquoi 7 fois, ce sont 17 fois. Amen. Jésus n'a pas dit tout le temps. C'est 7 fois, ce sont 17 fois, mon frère. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher aussi. Amen. Amen. C'est rattaché à un passage de l'Ancien Testament. Ce calcul de Jésus-là. Alléluia. Alléluia. Alors, quel était le problème de ce monsieur? Ce monsieur ne réalisait pas la grâce que lui-même il avait obtenue. Lorsque tu sais combien de fois on t'a pardonné, toi aussi tu sais pardonner aux autres. La Bible dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Dieu nous a beaucoup pardonné, mais plusieurs n'en sont pas conscients. Il y a des personnes qui viennent à Christ, qui se disent, avant même de venir à Jésus, j'étais un peu bien quand même. Il commettait 4 péchés seulement, 4. Mais les pécheurs dans la ville là, quand on dit les pécheurs là, c'est eux là. Toi qui parles comme ça, tu ne peux pas manifester l'amour du prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain parce que tu te crois déjà trop bien. Toi, dans ta vie, tu fais 3 péchés seulement, mais 4. De temps en temps, quand ça chauffe vraiment, tu mets un peu, ça fait 1. Quand tu as trop de pression, tu critiques un peu de temps en temps. 2. Donc quand tu te vois bien déjà et que tu estimes que Jésus n'a pas fourni trop d'efforts te concernant, tu ne peux pas fournir d'efforts par rapport aux autres. Tu seras sévère avec autrui. Tu seras méchant avec eux. Tu seras intolérant. Tu ne vas pas pardonner ce qu'ils feront. Parce que toi-même, tu te vois déjà bien. Tu es aveugle. Tu ne sais pas de combien de fautes le Seigneur t'a remis. C'est pourquoi tu n'arrives pas à pardonner. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Tu dois ouvrir les yeux et voir le pardon que toi-même tu as bénéficié de la part du Seigneur. Si tu te crois trop bien déjà, humilie-toi. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à pardonner à tout le monde. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à aimer les autres. Demande à ton Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je comprenne la grandeur de ton amour et de ton pardon. La grâce dont moi-même j'ai bénéficié. Quand tu vas voir tes milliards de péchés qu'on t'a remis, alors quand tu vas regarder celui qui t'a critiqué une fois, tu vas savoir pardonner. C'est ce que Jésus a dit à ces hommes. Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Autrement dit, Vous savez vous comporter avec envers les autres si vous êtes conscient des grâces même que Dieu vous a faites.
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble?
Ça, c'était le complément sur la deuxième clé, sur la deuxième attitude. La troisième attitude, je vous conseille vraiment de prendre les CD, c'est aimer Dieu plus que toute autre chose ou personne. J'ai expliqué cela longuement. Pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, pour que l'amour que Jésus a déposé en toi puisse se manifester et que tu pardonnes, que tu supportes les gens les plus compliqués, pour que cette chose-là se manifeste, il faut que tu aimes Dieu plus que tu n'aimes toute autre personne. Tu dois aimer Dieu plus que tu n'aimes tes enfants, tu dois aimer Dieu plus que tu aimes ton mari, tu dois aimer Dieu plus que tu aimes ton boulot, plus que tu aimes ton argent. Dieu doit être au-dessus de tout. J'ai expliqué cela longuement. Si tu aimes Dieu plus que tout, tu auras toujours suffisamment d'énergie et de force pour donner l'amour à tes proches. Si tu aimes ton argent, ta famille plus que Dieu, ton amour sera très faible. Alléluia. Prenez l'enseignement. La troisième clé est très, très, très importante. Il faut que vous saisissez cela. La quatrième clé. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, fais comme ça. La quatrième chose à faire, pour arriver à aimer mon prochain comme moi-même, pour arriver à pardonner aux autres, pour être comme Jésus, pour manifester le caractère de Jésus, il faut que je fasse une chose, que je contemple, dis avec moi, contemple régulièrement les attitudes d'amour de Dieu ou de Christ. Vous savez, pour détester une personne, détester ou être impatient ne sont pas des actions réfléchies de l'homme. Ce sont des réflexes. C'est-à-dire, dès que quelqu'un t'injurie, ta bouche en même temps s'ouvre et puis tu réponds. Ce n'est pas que tu réfléchis. Et même quand tu veux commencer à réfléchir, même la colère s'accroît dans ton cœur. Ce sont des réflexes. D'où est-ce que cela vient? Une chose qui produit les mauvaises réactions vient des choses que vous méditez. Si vous parlez souvent des hommes méchants, si vous réfléchissez souvent sur les ingratitudes des autres, vous allez finir par devenir vous-même ingrat. Si vous discutez souvent, Abidjan, les gens sont mauvais. Ils sont mauvais. J'ai dit, non, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ce type de langage vous amène votre esprit à méditer sur les attitudes mauvaises des hommes. Et sans que vous fassiez exprès, vous-même vous devenez mauvais. L'homme reproduit ce qu'il regarde souvent, sans faire exprès. Regardez, si vous observez une personne qui a un tic, c'est-à-dire un petit geste bizarre, même si vous n'aimez pas son tic, mais si vous l'observez souvent, vous allez reproduire la même chose. Ça vous est déjà arrivé? Hey, le gars, peut-être quand il parle, il fait un geste bizarre. Tu dis, mais pourquoi il fait ça même quand même? Il parle, il fait comme ça. Dès qu'il parle, tu dis, oh, il fait comme ça. Tu dis, mais reste la main tranquille. Mais c'est un tic. On appelle un tic. Si tu observes ça, quelques temps après, tu restes avec cette personne-là régulièrement, tu seras surpris. Pendant que tu parles, toi-même va faire comme ça aussi. Et les gens vont te dire, dis-toi là, tu commences à ressembler à ton gars bizarre là. Depuis que tu marches avec lui, tu as les mêmes manières. Voilà. Donc, c'est une manière que tu ne voulais pas avoir. Mais elle s'est imprimée en toi. Ça, c'est comme ça, c'est un peu comme ça notre esprit travaille. En fait, notre esprit reproduit ou bien amène notre corps à reproduire ce qu'il regarde souvent. Donc, si je veux avoir des gestes d'amour, je n'ai juste qu'à regarder. C'est-à-dire, j'utilise la même chose là. Mais je regarde ce que je veux et non ce que je ne veux pas. C'est tout. Amen. Comme je sais que je vais toujours finir par réagir comme les autres, alors je décide, je fais le choix de regarder celui qui a la bonne attitude. Donc, pour pouvoir se comporter comme Jésus, il faut prendre le temps de penser à l'amour de Jésus. Dis, oh, mais regarde Jésus. Et puis tu contemples, il vient, il fait la bise à Judas, quelqu'un qui l'a trahi. Et regarde comment il fait. Oh, mais Jésus est bon. Si tu y penses souvent, sans t'en rendre compte, lorsqu'une personne va te trahir, tu vas avoir le même comportement que Jésus. Tu auras la même attitude. Si tu médites souvent sur quelqu'un comme Joseph, ses frères l'ont jeté dans le puits, tu dis, mais Joseph, vraiment, ah, il a été fort, hein? Vraiment Dieu, tu l'as aidé. Et puis tu y penses. Tu te couches, tu penses à ça. Sans faire d'effort, tu vas connaître la trahison et tu vas voir que dans ton cœur, il n'y a aucune haine. Tous tes gestes et tes actes vont agir en fonction de ce que tu contemples et de ce que tu regardes. Les hommes deviennent de plus en plus méchants parce qu'ils parlent beaucoup de la méchanceté. On prend beaucoup de temps à dire ce qui ne va pas dans la vie des autres. On prend beaucoup de temps pour parler des choses qui ne vont pas au lieu de parler des choses qui vont. Alors, sans qu'on se rende compte, la société devient de plus en plus négative. Parce que, je ne sais pas quoi, on a l'impression que parler de ce qui ne va pas, en fait, c'est un genre de complexe de supériorité. Quand on parle de ce qui ne va pas, ça nous donne l'impression de nous-mêmes d'être meilleurs. Or, en réalité, on finit par devenir pareil. Moi, je disais à des frères qui font le cinéma, je dis, est-ce que vous savez que chaque fois en montrant la télévision, vous dites que vous voulez moraliser la société. Mais en montrant toujours ce qu'il ne faut pas, vous reproduisez ça chez les enfants. Vous reproduisez ça chez les gens. On montre constamment quelqu'un qui insulte son mari, qui parle comme ça. Tu regardes le film, ça te fait rire. Vraiment, j'aime trop ces films-là. Il faut regarder seulement. Ton esprit est en train de capter. Un jour, tu es là comme ça. Ton mari dit, chérie, il y a une parole qui sort. Tu ne sais même pas d'où elle vient. Mais elle vient de ce que tu regardes et ce sur quoi tu médites. Le monde passe beaucoup de temps à critiquer, à se moquer de ce qui ne va pas, au lieu de regarder ce qui va. On croit qu'en critiquant longuement ce qui ne va pas, on va finir par faire ce qui est bien. Ce n'est pas vrai. Si tu regardes constamment et tu médites et tu discutes de ce qui ne va pas, tu finis par faire ce qui n'est pas bon. Ça ne produit pas le contraire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, n'écoutez pas les gens qui vous parlent la longueur de journée des sorciers. Des démons, du diable, des quatre stratégies diaboliques au ciel. Quelqu'un voulait venir me voir ici, il dit, parce qu'il faut que je présente un livre. Je dis, quel livre? Il dit, il va expliquer les combien de manières du diable de détruire l'église. Quand il arrive, hein, comment les gens se dédoublent mystiquement et qu'ils attaquent les personnes dans le culte. Je dis, mon frère, en tout cas, tu ne vas pas passer ici. Quelle est l'utilité? Je sais que le diable existe, les sorciers existent, vous savez. Mais il est plus avantageux de parler de la gloire de Jésus que de parler des sorciers. Alléluia. Alors, ne pensez pas que vous aurez la victoire contre le diable en étudiant toutes ces stratégies. Tout ce que vous allez faire, c'est augmenter le nombre d'attaques contre votre vie. Les sorciers existent, la magie existe, l'occultisme existe. Si vous passez le temps à méditer l'occultisme, les occultistes vont vous attaquer davantage. Si vous passez votre temps à parler de Dieu, la gloire de Dieu vous envahit et les occultistes fuient. Alléluia. Donc, prenez le temps de contempler le ciel. Il y a tellement de grandes choses au ciel, pourquoi tu vas aller passer 10 ans d'études sur les 44 manières de Satan de frapper? Ça va faire quoi? Celui qui a eu la révélation, lui, il a appris 44. Et si tu n'as pas appris la 45e façon, quand elle va venir, comment tu sauras? Toi, tu as appris 44. Or, Dieu ne lui avait pas révélé qu'il n'y avait 45. Donc, toi, tu es parti faire un séminaire. 44 manières de frapper du diable. Tu as appris les 44. Il y a une 45e que tu ne savais pas. Quand ça arrive, tu dis, ça peut être Dieu. C'est là qu'on va t'avoir. Mais une fois que tu as Dieu, s'il a 66 façons d'agir, si le diable a 100 hauts, on s'en fout. Tu es en Dieu, alléluia. Peu importe le nombre d'actions, de stratégies, on a la victoire. Le diable existe, mais il ne doit pas faire l'objet de vos études approfondies. Sachez qu'il existe, ne le sous-estimez pas, il est là. Mais celui que vous devez contempler, étudier, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est le caractère de Jésus, c'est la bonté de Jésus, c'est la puissance de Jésus, c'est la gloire de Jésus. Et c'est ce qui va se reproduire dans votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On chasse les démons, on combat le diable. Mais on parle plus de Dieu qu'on ne parle du diable. Satan existe, il est méchant. Mais Dieu est grand et Dieu est bon. Je parlerai plus de la bonté du Seigneur que de la méchanceté du diable. Amen, amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. En 2 Corinthiens 3:18, nous tous qui... le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur et l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Nous tous qui contemplons Jésus, nous sommes transformés en la même image. Donc si tu veux ressembler à Jésus, il faut le contempler. Vous voyez ça? Nous tous qui qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Donc, quand je contemple Jésus, je finis par ressembler à Jésus. Je suis transformé en la même image. Comment je le contemple? Jésus n'est pas là physiquement, je le contemple dans mes pensées. Je réfléchis à la bonté. Moi, l'amour, j'ai commencé à sentir cela se manifester. C'était d'abord un ami, mon voisin. Quand je voyais sa douceur, sa patience en tant qu'un chrétien envers les autres, j'ai admiré cela. Je n'étais pas comme lui, mais j'y pensais. Quelques années plus tard, j'ai commencé à reproduire les mêmes comportements. Alors j'ai dit, c'est vrai qu'un homme est limité. Donc c'est mieux de continuer à regarder Jésus. Et je médite beaucoup sur la bonté, sur l'attitude des gens qui pardonnent. Et je pense beaucoup à ces gens-là. Le caractère de l'amour, lorsque je suis admiratif, lorsqu'on me parle de la patience, lorsqu'on me montre quelqu'un comme Moïse, on dit, il n'y avait personne patient comme lui. Voilà les choses que j'aime observer. Et je sais que je vais les reproduire en moi. Comme je connais la clé, je passe beaucoup de temps à les observer. Et ça se reproduit dans ma vie. Ce n'est pas difficile. Tu n'as qu'à lire ça seulement et puis à y penser. Et c'est compliqué. Et tu vas reproduire la chose. Ce fut la quatrième clé. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette attitude. Tu veux aimer ton prochain comme toi-même, agis de la sorte. Et tu vas te rendre compte que tu pardonnes comme Jésus, tu es patient comme Jésus, tu es doux comme Jésus, parce que tu as observé Jésus-Christ agir de la sorte. La cinquième clé avec laquelle nous allons terminer pour aujourd'hui. Cinquième clé, cinquième attitude à avoir pour aimer son prochain. Cher ami, suivez très bien cette cinquième clé. Suivez-moi très bien. La clé, c'est celle-ci. Choisissez de bons trésors dans votre cœur. Lorsqu'on voit comme ça, c'est difficile à comprendre. En fait, moi-même, je cherchais la bonne formulation. Mais c'est celle-là que j'ai trouvée. Peut-être que je trouverai une autre plus tard. Choisissez, dis avec moi, je dois choisir. Ou encore, je dois avoir de bons trésors dans mon cœur. Ok. Ainsi donc, la qualité des trésors que vous avez dans votre cœur détermine le type de réaction que vous aurez envers les autres. C'est que, plus on dit, mais c'est quel trésor? Quel trésor est dans le cœur? D'où je tire cela de Luc chapitre 6, verset 45. On peut afficher le passage. Il est dit là. On va le lire ensemble. 1, 2 et 3. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voici la clé, voici le passage. Dieu dit, si un homme est bon, or la bonté c'est l'amour. Si tu vois quelqu'un qui a des attitudes bonnes, qui a de la bonté, qui a de la compassion, la bonté c'est pardonner, n'est-ce pas? Qui pardonne aux autres. Dieu dit, si tu vois quelqu'un qui pardonne, qui est bon, c'est que dans son cœur, il a ce qu'on appelle un trésor. Mais ce trésor-là est bon. Et il dit, si tu vois une personne qui a de mauvaises réactions, qui parle mal, qui critique, qui a des difficultés pour pardonner, il dit, si tu vois une personne, par exemple, les gens qui sont lunatiques, c'est pas bien, tu changes d'humeur du jour au lendemain. Non, du jour au lendemain même, c'est trop compliqué. D'une minute à l'autre. Il y en a un, c'est une seconde à l'autre. Vous venez, vous riez. Frère, frère. En même temps, il se fâche en même temps. On dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Bon, quelqu'un qui change comme ça, il a un problème. Et le problème vient de quoi? Cette attitude néfaste, négative, émane en fait de quelque chose qui est dans son cœur qu'on appelle un trésor. Dis-moi le trésor. Le trésor. Donc, si tu as des difficultés pour pardonner à Gasparette, ça dépend du trésor. Tu as des difficultés pour pardonner parce qu'il y a un trésor qui est dans ton cœur qui n'est pas bon. Si tu pardonnes facilement, c'est que tu as un trésor dans ton cœur qui est bon. Donc, la qualité du trésor dans le cœur d'une personne détermine son attitude. C'est ce que Jésus dit. Les bons ont des bons trésors. Les méchants Ils sont méchants parce qu'ils ont des mauvais trésors. C'est quoi un trésor? Dis avec moi le trésor. Demandez-moi. Dites, pasteur, c'est quoi le trésor? Voilà. Dites-moi, est-ce qu'un trésor est une chose qui a de la valeur? Donc, voilà. Un trésor est une chose qui a de la valeur. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les trésors. Si je veux savoir, quelque chose qui est un trésor, je dois savoir que cette chose-là doit être, avoir de la valeur. Deuxième chose à savoir sur le trésor. Les choses qui ont de la valeur sont très personnelles. Elles sont liées à chaque personne. Que suis-je en train de dire? Ce qui a de la valeur pour toi n'a pas forcément de valeur pour moi. Ce qui est un trésor pour toi n'est pas forcément un trésor pour moi. Si pour toi, 10 000 francs CFA, c'est un trésor, pour un Américain, il peut aller aux toilettes avec ça. Parce que le CFA n'est rien là-bas. Donc, ce qui est un trésor en Côte d'Ivoire, n'est rien là-bas. Encore, ton aïeul, ton arrière-grand-père, peut t'avoir cédé une radio pour écouter. Quand tu as mis ça quelque part dans ton, sur ta bibliothèque, quand tes enfants même veulent toucher, attention, c'est la radio de Pépé. Cette radio, le jour où on proclamait l'indépendance, c'est là que grand-père a écouté. Mais la façon dont la radio là est importante pour toi, pour quelqu'un d'autre, c'est un vieux truc qu'il faut jeter à la casse. Tu peux avoir une photo de ton aïeul avec un gros fusil de chasse, une vieille photo blanc et noir dans une forêt. Et puis tu montres la photo, on ne voit même plus bien le visage. Tu dis, vous savez, ce monsieur qui est là, c'est votre arrière grand-père, un grand chasseur. Donc la photo là, tu encadres, c'est caché quelque part. Mais pour une autre personne, c'est un papier banal. Si quelqu'un voit ça, il va jeter à la poubelle. Donc, ce qui est un trésor pour toi n'est pas un trésor forcément pour l'autre. Tout est relatif. Même en Côte d'Ivoire, ici, en parlant d'argent, pour une personne, 10 000 francs peut être un trésor si elle a beaucoup de difficultés à obtenir 10 000 francs dans sa vie. Mais quelqu'un qui traite en millions de CFA, 10 000 francs n'est pas un trésor. La personne même égare 10 000 francs dans ses poches, elle ne sait même pas. 10 000 francs tombent. On dit, tu as perdu de l'argent. Ah bon? Mais quand 10 000 francs est pour toi un trésor, mon frère, 10 000 francs ne peut pas se perdre. Jamais. Jamais. Tu sais où ça est. On ne peut même pas voler. Non. Mais il y a des personnes, tu leur voles 100 000 francs, elles ne se rendent même pas compte. Donc, 10 000 francs est pour toi un trésor, mais pour quelqu'un d'autre, ce n'est rien. Donc, le trésor est une chose qui est relative. Elle est fonction de chaque personne. Alléluia. Alléluia. Troisième chose sur le trésor, c'est que le trésor se cache toujours. Un trésor ne s'expose pas. Si 10 000 francs est pour toi un trésor, que tu viens d'obtenir 10 000 francs, je t'assure, quand tu prends, tu le caches. Tu ne sors pas, tu ne te prends pas ça dans la ville comme ça. Ça a de la valeur. Tout ce qui est un trésor, on le met à l'abri, quelque part. Voilà donc trois caractéristiques réunies du trésor. Alors Dieu dit, s'il y a des choses qui sont importantes pour toi, que tu caches dans ton cœur. Amen. Si ces choses-là sont négatives, parce que si quelque chose est important pour toi, ça peut être le respect, l'argent, peu importe. Mais si quelque chose a de la valeur pour toi, que tu casses cette chose-là dans ton cœur, elle devient systématiquement un trésor. Maintenant, si ce que tu as caché dans ton cœur, là, ou on peut dire un secret, si ton secret n'est pas un bon secret, il va produire dans ta vie un comportement négatif. Si par contre ton secret, ton trésor, est quelque chose qui est bon, qui est vertueux, ce secret-là va produire en toi un bon comportement. Autrement dit, Dieu dit ceci, que un homme est méchant parce qu'il a des secrets méchants. Un homme est bon parce qu'il a des secrets bons. Il y en a qui ne comprennent pas encore bien. Je viens. Amen. Je dis quelque chose. Par exemple, tu étais jeune fille et tu as été violée. Ça t'a tellement traumatisé. Tu t'en es relevé, mais pas vraiment. Et tu ne veux plus en entendre parler. Et cette histoire de viol-là, tu l'as cachée quelque part dans ton cœur. C'est devenu ton secret. Le viol est pour toi un trésor. Je n'ai pas dit qu'on aime tous les trésors. Mais tu le caches. Parce que le fait qu'on ait abusé de toi contre ta volonté, ça a été quelque, c'est une certaine valeur négative qui t'a fait mal et tu l'as gardé. C'est secret. Personne ne doit savoir. Sauf tes proches, très proches, savent qu'à l'âge de 10 ans, on t'a violé. Et tu as caché cela en toi. Dis-moi, est-ce que le viol est une bonne chose? Le viol est une chose négative. Si l'histoire du viol est un secret pour toi, le viol, c'est pas dit que tu as envie d'être méchante, hein? Mais le fait que tu aies caché ça en secret, là, ça va te rendre dans ton avenir bizarre. Ça produit, par exemple, si j'étais une personne, un caractère lunatique. Changement d'humeur. Par exemple, tu es là avec ton mari. D'abord, ça peut t'empêcher même de te marier. Et quand même tu te maries, ton mari veut te toucher d'une manière. Non! Puis tu lui lances des flèches, tu lui parles mal. Tu agis méchamment. Toi-même, tu es consciente que tu n'aurais pas dû lui parler ainsi. Mais tu n'arrives pas à retenir ta bouche. C'est comme les paroles qu'il a dites, tout ce qu'il a fait, ont réveillé quelque chose et qui t'ont fait réagir très négativement. Et toi-même, tu es consciente que tu es bizarre. Il y a des fois, tu es compliqué avec les gens. Cette attitude méchante-là émane de ce que dans ton cœur, il y a un secret. Mais le secret-là n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne histoire. C'est quelque chose dont tu n'as pas envie d'en parler. Il n'y a pas d'honneur à en parler. Tu peux devenir méchant à cause de ce que, pendant longtemps, tu as marché avec Gaspard et il t'a escroqué. Ça t'a fait trop mal, la trahison de Gaspard. Ça t'a fait mal. C'est une blessure. Dès l'instant, tu caches l'affaire. Et tu ne veux jamais qu'on revienne là-dessus. Ça devient pour toi un secret. Ça devient pour toi quelque chose de valeur. Mais une valeur néfaste, une valeur négative. Elle va, cette valeur-là, cachée dans ton cœur, c'est une semence qui va commencer à produire certaines réactions. Dans tes affaires, dans tes projets, tu es capable de gâter sans comprendre comment tu fais beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie. Tu peux être subitement très désagréable, très méchant. Après, de temps en temps, tu changes, tu es bon. Ton comportement change comme ça. Tu peux devenir amer. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor noir en toi. Un homme qui est bon tire de bons trésors dans son cœur. Un homme qui agit méchamment, dit Jésus, a dans son cœur quelque chose de secret qui n'est pas bien à garder. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu gardes? Quels sont tes secrets? Quelles sont les choses dont tu ne veux jamais qu'on parle? Les histoires de ton enfance, ou même de ton adolescence, ou même de ta période adulte, qui te font profondément honte, qui te mettent en colère, dont tu n'en parles jamais. Dis-moi ma soeur, dis-moi mon frère, est-ce que ce que tu gardes en secret est quelque chose de positif? Si tu me dis non, pasteur, ce que je garde là, je ne peux pas dire. Hein, ce qui s'est passé, c'est trop mauvais. C'est pourquoi je n'en parle jamais. Ma soeur, je suis désolé. Ça va te rendre méchante. Tu n'as pas envie d'être méchante, mais tu vas réagir méchamment. Tu n'as pas envie de critiquer, mais tu vas être quelqu'un qui critique. Tu vas entendre la parole de Jésus. Tu vas dire, je vais changer. 3 mois plus tard, tu vas agir différemment. Il y a comme quelque chose, une force négative en toi qui repousse chaque fois. Et ça vient d'un trésor. Jésus ne dit pas c'est tout ce qu'on garde dans le cœur qui est un problème. Il parle de ce qu'on considère comme étant des trésors. C'est ça le problème. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Quelqu'un a envie de me demander, mais comment on fait pour s'en sortir? Qui reconnaît qu'il a des trésors négatifs? devant Dieu. Parce qu'on va prier tout à l'heure. Dieu va nous aider, mes amis. On est là pour cela. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter, pour devenir bon, pour aimer son prochain comme soi-même, pour être capable de pardonner tout le monde, pour être capable de supporter tout le monde? La cinquième clé, c'est celle-ci. Tout ce qui est négatif de votre passé ne doit plus être un secret, ne doit plus être un trésor. Il faut le mettre dehors. Si vous le mettez dehors, s'il devient pour vous banal, il ne sera plus un trésor. Parce que tant que c'est ce qui fait que c'est un trésor là, c'est parce que tu l'as caché. S'il n'est plus caché, il n'est plus trésor. S'il n'est plus trésor, il n'induit plus tes actions. Amen, amen, amen. Alléluia. Si ce n'est plus un trésor, tu es délivré. Donc, il faut amener les choses à ne plus être des trésors. J'ai écouté souvent d'autres hommes de Dieu. Et moi-même, je l'ai constaté dans ma propre vie. Mes histoires négatives, mes échecs à l'école. Je viens, j'en parle comme ça. Il y en a d'autres, ils ne vont jamais vouloir dire qu'ils ont échoué au bac. Moi, je m'arrête là. Je dis, j'ai échoué. Mais je tire les leçons. Vous voyez, c'est pas pour moi. Je ne prends pas ça comme étant un trophée. Mais je regarde ça comme un épisode de ma vie. Et je ne le garde pas en secret. Ça n'a plus d'effet sur moi. Si par exemple, je n'avais pas envie que l'on sache que j'ai échoué. Parce que j'ai envie qu'on ait une bonne image de moi. Quand même, tu passes à Nogo. Il ne faut pas qu'on sache que toi dans la vie, tu as eu. Quand même, tu étais un chrétien. Si les gens apprennent que toi, un gars, tu parles de Dieu quand tu échoues au bac. On a fait te renvoyer tout ça. Hey, c'est une bonne affaire. Non, faut pas, tout cas, tu parles. Faut pas parler. Les gens n'ont qu'à prendre tes messages comme ça. Je vous assure, ça allait me rendre bizarre. Ça allait créer en moi le mensonge. Quand j'allais voir quelqu'un qui connaît un peu mon passé, j'allais être bizarre. Je le rencontre à l'église. Il dit, lui, on a fait CM2 ensemble. Attention, attention. Il connaît que quand j'étais au CM2, tu sais que quand tu étais au CM2, là, tu volais l'argent dans les sacs. Donc, dès que tu es en train de prêcher, quand tu vois ton camarade de CM2, que tu as escroqué, que tu as volé, tu arrives, tu dis, ah, le gars, lui aussi, dans toutes les églises d'Abidjan, pourquoi c'est ici, il vient? Tu as honte de ce passé. Tu veux que tout le monde garde une bonne image de toi, donc tu gardes ça en secret. Si tu prends cette histoire et tu la banalises, hé, hey, mes amis, Jésus m'a délivré. Avant là, je volais. L'affaire est banalisée. Les gens vont prendre ça pour rire. Ce qui devait être pour toi un secret ne l'est plus. Tu l'as mis au public. Il ne va plus induire. Donc, alléluia. Tu n'auras plus besoin de mentir. Le mensonge vient de ce qu'on a des secrets. Mais des secrets négatifs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie que les gens sachent de nous. Mais comme c'est que tu ne veux pas que les gens sachent est mauvais, ça fait que tu mens. Tu peux paraître autre chose. Mais si tu mettais cette chose-là dehors, quand on arrive, on dit, mon gars, avant tu étais dangereux, hein? Tu souris. Tu dis, oui, mais Jésus m'a délivré, mon frère. C'est fini. C'est banal. Qui n'a jamais volé un petit truc? Entre nous ici, entre nous. Qui n'a jamais pris un 25 francs, une viande dans la sauce interdite? On a fait ça, mais souvent on se retrouve. C'est pourquoi les gens sont mauvais. Quand on se retrouve, on dirait, on était bien avant. On a fait des trucs, on a rentré dans les réfrigérateurs, on a pris des trucs. Mais c'est banal. Tout dépend de la façon dont je considère la chose. C'est pourquoi vous avez des hommes de Dieu comme quelqu'un comme Donnie McLaughlin, le grand chanteur. Dans sa vie, il a été abusé dans son enfance. Il a connu la pédophilie. Et il est devenu efféminé. Et c'est pourquoi je dis souvent, on voit des gens qui sont efféminés, qui marchent comme les femmes là. C'est parce que c'est un secret, il y a un trésor. C'est vrai, quelquefois, quand ils avaient 2 ans, 3 ans, les gens les ont connus. Un visiteur de la maison, l'enfant est traumatisé, n'en parle pas, c'est un secret. Et vous ne pouvez pas imaginer que ce gars-là, quelqu'un lui a fait ça. Il le garde. Et comme c'est un secret, ça finit par changer même sa morphologie, son comportement, son attitude. C'est comme si c'était ce que j'ai une femme. Ça crée en lui quelque chose de très bizarre. Il aurait été simplement guéri s'il l'avouait. Si c'était plus un secret, c'était fini. Ça brisait l'effet de ce poison qui était semé en lui. Mais comme cela, il a commencé. Et Donnie McLaughlin, qui marchait comme ça, les mains, comme les filles. Hey, mon cher, chair. C'est pas bien. Voilà. Je n'ai pas dit que tout ce qu'ils font ça ont ce problème. Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon expérience dans la cure d'âme et en parlant avec les frères, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui sont efféminés ont été abusés dans leur enfance. Mais ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais parce que ça fait honte. C'est traumatisant. Et lui, il l'a avoué. Lui, il l'a dit. Il le dit même en public. Et il explique comment il était corrigé après. Il dit, il y avait des femmes dans son église, là, les mamans. Là. Elle dit, un homme ne marche pas comme ça. Quand il met sa main comme ça, on tape. Pas. Bah, allez, alors. S'il veut marcher comme ça, allez, pas. Bah, redresse-toi. Un homme. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le grand Donnie qui parle de Dieu, qui prêche la parole. Tout le monde sait qu'il a connu la pédophilie. Tout le monde sait, mais qu'est-ce que ça fait? Odie parle de Dieu, c'est son passé. Une femme comme Joyce Meyer, elle vous parle combien de fois elle a été abusée par les hommes. Combien de fois on a abusé d'elle, les viols, tout cela. Elle en parle. Et il y a plein d'hommes de Dieu qui étaient des brigands, qui étaient des choses. Ce qui devait être un secret, ils l'ont banalisé. Ils l'ont mis dehors, leur vie en a été affranchie. Et ils se comportent bien. Quels sont les trésors qui sont dans ton cœur? Est-ce que ce sont de bonnes histoires ou de mauvaises histoires? Si ce sont de mauvaises histoires, tu auras des attitudes méchantes. Si ce sont de bonnes histoires, tu vas avoir de bonnes attitudes. Ce n'est pas que tu fais exprès. Il y a des attitudes, on réagit sans s'en rendre compte. Nos réactions sont créées par nos secrets. C'est à nous de choisir quel genre de secret, quel type de secret nous voulons avoir. Amen, 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 amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi il dit d'avoir de bons secrets? Ça aussi, c'est très important. Pour être bon, il faut garder certaines choses secrètes. Mais ce qui est bon. Pour avoir une bonne attitude, il faut avoir des secrets. Dieu ne dit pas de ne pas avoir des secrets, mais il dit de choisir le type de secret. Dieu te dit que toi, demain, tu vas financer le royaume de Dieu, tu vas financer les églises, tu vas construire des routes, tu vas construire des hôpitaux. Dieu te l'a dit. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, n'en parle pas. Garde ça pour toi. C'est un secret. Toute chose qui a de la valeur que tu mets à la surface est dévaluée. Si tu parles de ton projet futur en public, tu ne l'atteindras jamais. Si tu exposes, si tu gardes ce qui est mauvais dans ton cœur, ça va te détruire. Si tu l'exposes, ça n'a plus d'effet. Ce qui est bon là, si c'est ce que tu gardes, ça aura de l'effet. Si tu exposes aussi ce qui est bon, ça n'aura plus d'effet. Tu viens devant les gens. Oh, mon Dieu m'a dit hier. Dieu m'a dit que cette affaire là va me rendre milliardaire. Les gens vont te tourner sur cet argent. Le jour où tu as parlé, c'est le jour où tu as enterré ton projet. C'est 40 ans plus tard, tu vas t'en sortir, mon frère. Joseph, non, je réduis le temps. Que Dieu fasse grâce quand même. Parce que entre nous, on a dévoilé trop de bons secrets. Et moi, je travaille là-dessus en ce moment. Mais c'est important. Quand Dieu ouvre mes yeux, je dis, ah bon Seigneur. Il dit oui. C'est ce qui a créé des problèmes à Joseph. Il se lève le matin. Il dit, j'ai fait un rêve. On dit, quel rêve? J'étais le roi. Vous tous, vous vous prosternez devant moi. Par deux fois, on a failli le tuer. C'est une bonne chose, mon frère. Garde ça. Ça doit être pour toi un secret. Tu sais dans ton cœur que tu vas construire des hôpitaux. Tu sais dans ton cœur que tu vas faire. Ça, ce sont des bonnes choses. C'est ce dont on ne parle pas. C'est ce qu'on conserve. Pas ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, on va sortir. Allez-toi, va-t'en. Ce qui est bon, on garde. Ce qui se va produire en toi, c'est que ça va créer en toi beaucoup de bonté. Tu sais que demain, tu vas bâtir des hôpitaux. Tu n'en parles pas. Un secret, on n'en parle seulement qu'avec des intimes, avec des gens certains. Tu calcules avant d'en parler. C'est vraiment des personnes de confiance à qui tu peux dire, cher ami, voilà ce que j'ai vu en songe, que Dieu allait faire. Mais n'en parlons pas, prions simplement dans le secret. On ne partage pas avec beaucoup de gens les grandes choses que vous savez que vous allez faire. Ce n'est pas utile. Ne le faites pas, vous allez vous créer des problèmes pour rien. Vous allez mettre en état vos projets. Tu veux construire des usines, tu veux bâtir des magasins dans tous les carrefours d'Abidjan? Garde ça pour toi. Commence à travailler dans le secret. Et la chose va se réaliser. Commence à en parler et elle va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et tout ce qui est positif va créer en toi de la bonté. Comme tu sais que demain tu vas bâtir des hôpitaux, alors tu vas sentir que ça te produit beaucoup de joie quand tu y penses. Et tu vas commencer à aider les malades, à faire du social, petitement, comme ça. Ça va naturellement créer en toi des attitudes très positives, parce que ton cœur est pur. Quand tu penses à ton projet, ça te produit de la lumière, ça te produit de la joie, et ça réagit sur tes attitudes. Or, quand tu penses au secret négatif, ça met en toi de la tristesse, ça met en toi de l'angoisse, et ça produit des réactions négatives. Si tu penses à ce qui est joyeux, ça met en toi de la paix, et ça produit des réactions positives. Alléluia. Voici donc la cinquième clé pour aimer son prochain comme soi-même. Pour aimer son prochain comme soi-même, je dois choisir volontairement dans mon cœur de bons secrets. Et je dois mettre dehors les mauvais secrets. C'est de là que vient le principe de la confession. Celui qui avoue ses fautes, dit le Seigneur, qui les met au dehors, qui les délaisse, obtient miséricorde. Proverbe dit, mais celui qui les cache s'en tient mal. Les mauvaises choses ne se cachent pas. Si on veut s'en sortir, on les jette à la surface pour en être délivré. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ces clés que nous avons partagé aujourd'hui. Nous voulons arriver à aimer notre prochain. Nous voulons arriver à être des personnes qui pardonnent, des personnes qui sont patientes, des personnes qui sont douces. Nous devons travailler maintenant sur les choses secrètes en nous. Nous devons revisiter notre cœur ce matin, revisiter les choses secrètes. Et pendant que nous avons les têtes baissées, je vais demander s'il y a une personne parmi nous qui sait aujourd'hui qu'elle doit mettre dehors certaines choses négatives, un passé négatif, les secrets négatifs, qu'elle se tienne debout. Si tu sais que tu es concerné par les secrets négatifs, tiens-toi debout, je vais prier. On va prier ensemble, mon frère, ma soeur. Mets une main sur ton cœur, mets une main sur l'autre cœur, lève l'autre main. Et maintenant, avoue, parle à Dieu. Quand même, fais sortir ça. Aie la force de prononcer ce passé-là. Aie la force, laisse-le sortir par ta bouche. Confesse-le à ton Seigneur. Ouvre ta bouche et en parle. Ce n'est pas que tu demandes pardon. Si c'est un acte négatif que tu as commis, tu demandes à Dieu pardon. Si c'est un acte négatif qu'on t'a fait subir, quand même parle. Tu dis, Seigneur, vraiment, c'est vrai. Je ne veux pas parler de ces choses, mais j'ai été ceci, j'ai été abusé, j'ai été escroqué, j'ai été violé, j'ai été maltraité, j'ai été... Voilà. Décharge-toi de ce fardeau. Laisse-le partir. Laisse-le sortir par ta bouche. Avoue-le. Laisse-le sortir afin qu'il ne soit plus pour toi un poids. Décharge-toi. Donne ce fardeau-là au Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Donnez-moi le vôtre. Alors donnez votre fardeau au Seigneur. Ces choses qui étaient pour vous secrètes ne doivent plus être pour vous des fardeaux. Laissez-les sur Jésus. Dis, Seigneur, je n'arrive plus à supporter ce drame que j'ai connu. Je le mets. Prends-le, Seigneur. Prends-le. Je me décharge de ce que j'ai subi. Voilà ce que mon mari m'a fait. Voilà ce que mon conjoint m'a fait. Voilà ce que ma femme m'a fait. M'a fait, Seigneur Dieu. Voilà ce que mon meilleur ami. Ah, ça m'a fait tellement mal. Mais j'en parle. Seigneur, prends ce fardeau-là. Donnez votre fardeau, Seigneur. Déchargez-vous. Croyez en la puissance de la parole. Ouvrez la bouche et parlez. Ne dites pas ça dans votre cœur. Ouvrez les lèvres. Il faut prononcer la parole. Si tu n'es pas muet, il faut parler. Il faut que l'air qui est là, l'atmosphère, entende ta voix. Et mets cela sur le dos de Jésus, sur les épaules de Jésus. Demande à Jésus de le prendre. Maintenant, 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 le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de délivrer. Le Saint-Esprit est en train de décharger. Le Saint-Esprit est en train de restaurer. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour ceux qui ont les cœurs brisés. Je suis venu pour ceux qui sont meurtris. Et le Seigneur ton Dieu vient à toi maintenant pour te restaurer, pour te délivrer, pour guérir ton âme, pour guérir ton cœur de toute forme de blessure. Au nom de Jésus. Riando bobo chatari de bros, praie de glorianda bosh. Praie de glorianda brade shababa yandari de vous. Au nom puissant de Jésus, vous êtes déchargé maintenant. Vous êtes libéré maintenant par la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, dis ces choses après moi. Dis, Seigneur Jésus, sur toi, je mets ces fardeaux négatifs que j'avais gardés en moi. Prends-les, Seigneur, car je ne peux les supporter. Ils m'ont détruit. Je le reconnais. Aujourd'hui, je me décharge.
prends mes fardeaux. Prends mes fardeaux. Et donne-moi tes fardeaux, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à parler. Apprends-moi à garder. Apprends-moi à avoir de bons secrets. Les trésors que tu me donnes, apprends-moi à les garder. Mais les trésors que tu ne m'as pas donnés, je les abandonne. Je me détourne d'eux. Merci Seigneur. Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Au nom de Jésus, amen. On peut acclamer le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from heaven.